Bonjour à tous. Vous écoutez France Culture, il est midi dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30 avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un rapport remis ce matin à Manuel Valls qui prône la fusion des minima sociaux, ils sont une dizaine actuellement, dans une allocation unique de 400 euros par mois pour les personnes de plus de 18 ans en situation de précarité. La mesure coûterait 3,5 milliards d'euros par an, on en parlera tout à l'heure avec Anne-Laure Chouin. La politique de la BCE est de plus en plus contestée en Allemagne, les taux extrêmement bas, voire négatifs, érodent fortement les comptes des épargnants, les fonds de pension aussi des retraités. Le parti bavarois CSU, allié de la chancelière Merkel, déclare que le prochain président de la Banque centrale devra être un Allemand. On appellera sur place Cyril Sauvageau. Les députés brésiliens ont ouvert la voie à la destitution de la présidente Dilma Rousseff par le Sénat. Une majorité simple maintenant de sénateurs sera suffisante d'ici au 11 mai pour lancer cette mise en accusation. Et puis on parlera de la SPA qui lance une campagne et réclame l'installation de systèmes vidéo de surveillance dans les zones d'abattage des animaux. Elle rappelle que les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles et s'indigne qu'ils soient pourtant martyrisés dans l'indifférence générale. La Fédération française d'addictologie recommande, dans un rapport également rendu public ce matin, que la consommation de drogue soit permise dans les centres d'accueil pour toxicomanes et pas seulement dans les salles de shoot. On évoquera également cette question. Et puis l'invité du journal, ce sera aussi l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
L'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, qui est aussi économiste, et c'est d'ailleurs en tant qu'économiste et que chercheur qu'il publie un livre qui contribue amplement au débat d'idées en Europe et sur l'Europe. À ce titre, là, il avait sa place autour de la table, de même qu'en première partie, c'est inhabituel parce que nous ne recevons jamais d'hommes politiques, mais il se trouve qu'en première partie également, nous avons autour de la table aujourd'hui un homme politique, sauf que cet homme politique se prend pour un romancier, il a pris les habits d'un romancier et que nous avons le plaisir de l'accueillir comme nouveau venu dans le monde du thriller. Il a été ancien ministre de l'éducation nationale, il est toujours député européen, il est aussi un philosophe, il enseigne désormais à l'université de Neuchâtel en Suisse. C'est Vincent Payon qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Je vais lui demander ce qu'il en pense.
Mais laisse-le lire, bougre de cloche, car tu me fais marrer avec tes gamberges. Tu ferais mieux d'aller un peu moins au Cinoche, ça te ferait des économies.
Mais alors là, tu tombes mal, papa. J'y vais jamais au Cinoche, ça me fait mal au carreau.
Ben t'as qu'à mettre des lunettes.
Et alors ? Ce que vous lisez là, les mecs, c'est des salades de journalistes.
Ah, c'est tout de même la photo d'Angelo, non ?
Mais qu'est-ce que ça prouve, ta photo ? Tu peux passer demain sous une charrette et piquer un lancher. Mais tu peux être sûr qu'ils foutront ton portrait dans tous les canards et qu'en dessous, ils écriront ce qu'ils veulent.
Alors, t'y crois pas, à l'affaire d'Orly ? Pour toi, t'es du plomb.
Il fait pas dire ce qu'il dit pas. L'affaire d'Orly, ça existe, mais ça peut pas être Angelo.
Il serait jamais mouillé dans un cirque pareil, Angelo. Tu le connaissais, tout de même. Dis, bouche. Et mes cigarettes,
j'en ai plus, faut que j'aille en chercher.
Ah, vous êtes terribles, vous autres, hein? C'est pourtant bien lui qui était dans la bagnole avec le Grisby, oui?
C'est une ambiance, hein, c'est une atmosphère, c'est une langue aussi, le thriller, on entendait là un extrait du film de Jacques Becker, Touchez pas au Grisby, sorti en 1954, adapté du roman d'Albert Simonin, avec les dialogues d'ailleurs d'Albert Simonin. Vous avez beaucoup lu les thrillers, vous avez lu en particulier Touchez pas au Grisby, Vincent Payon. Je suppose que toute cette atmosphère, cette langue vous ont aidé, vous ont guidé, vous ont peut-être inspiré pour votre propre thriller, Aurora, qui paraît aux éditions Stock aujourd'hui.
La première version d'Aurora, je l'ai écrite il y a 35 ans. Et à ce moment-là, il n'y avait pas, dans l'univers du policier, il n'y avait pas les auteurs que l'on lit aujourd'hui. Je pense par exemple aux Suédois, aux Norvégiens, aux Islandais, aux Écossais. Bon. Et le polar français, celui de Pigalle, de la Butte Montmartre, d'Albert Simonin, de cette langue très particulière qu'on a retrouvée au cinéma, qui a été bien adaptée, avait beaucoup d'importance. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de bonheur. Et dans le livre tel qu'il est publié 35 ans après, réécrit, il reste quelques éléments qui étaient pour moi des clins d'œil, même si les choses ont beaucoup changé, et en particulier au personnage de Marco, qui tient un bar un peu louche, rue Vernet, qui s'exprime. Il le dit d'ailleurs, j'aime, est-ce qu'il va y avoir du boucan? Du boucan, ça veut dire de... Et il dit, j'aime parler la vieille, le vieil argot des voyous. Et à cette époque, oui, j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu... Je peux le relire avec beaucoup de bonheur, mais le roman policier est sorti dans le fond de la petite case où il était. Donc quand je l'ai réécrit, j'ai juste gardé ce clin d'œil. Sauf que les deux personnages principaux, mais ce n'est pas dit exactement là, étaient un peu avant de devenir des agents, employés par le Mossad dans une cellule qui est une cellule qui pourchasse les criminels nazis, étaient justement des petits voyous de la butte. À la fois Roland Kuntz et Helmont.
Vincent Payon, vous dites que vous avez commencé d'écrire ce livre il y a 35 ans, et puis vous l'avez mis de côté, et vous le reprenez aujourd'hui. Est-ce parce que c'était incompatible avec votre vie d'alors, vie de philosophe, puis vie d'homme politique, que d'écrire un roman? Les deux sont incompatibles?
Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on est... Vous savez, ce qui vous tient le plus à cœur, ou ce que vous savez, vous entendez les commentaires... les uns et des autres, et les gens pensent, mais lorsque j'avais 20 ans, je souhaitais écrire, et j'ai écrit quelques romans, c'est pas le seul. Le problème, c'est que je ne les trouvais moi-même pas très bons. Ça peut arriver, je crois que ça arrive à beaucoup de gens. Et puis, 35 ans après, j'ai retravaillé, mais j'ai toujours eu ce désir, il n'y a pas d'incompatibilité, il y a le sentiment d'un accomplissement, d'une possibilité de faire les choses. Et je ne dis pas que j'ai fait beaucoup mieux, mais en tout cas, le moment est venu où je veux me confronter directement à ça, à l'écriture. Et donc, je suis allé cette fois-ci au bout.
Je dois vous avouer un étonnement. D'abord, à voir Vincent Payon sur la couverture d'un livre où l'on peut voir Thriller, bien sûr. Et puis ensuite, à la lecture de ce livre, c'est vrai que c'est un livre qu'on ne s'attendait pas du tout à lire sous votre plume. Et là, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part. C'est juste une surprise. C'est totalement inattendu. Il est question dans ce livre d'un consortium néo-nazi, d'ex-agents secrets israéliens, d'une opération commando baptisée Pinocchio. Est-ce que vous diriez, Vincent Payon, que c'est une autre facette plutôt méconnue de l'homme politique que vous êtes, ou bien c'est l'homme, Vincent Payon, amateur de romans, de séries noires, de thrillers, ayant toujours voulu écrire là, qui se révèle enfin? Autrement dit, est-ce que c'est un seul et même homme qui se révèle à nous?
Vous savez, le premier livre que j'ai publié sur Merleau-Ponty commence par une page et demie sur ce que Merleau-Ponty avait repris d'André Breton, qui s'appelle « Le point sublime ». Et André Breton dit « Nous devons être, ou nous essayons d'être le même homme dans nos gestes, dans nos façons d'être avec nos enfants, dans nos façons de lire le journal, de prendre position politique, d'écrire des livres le cas échéant, mais on n'est pas du tout obligé de le faire, on peut semer des graines, on peut... » Et donc cette idée qu'on serait coupé en lamelles et qu'on ne serait que la facette que les médias veulent bien, ou la vie sociale, le personnage de la vie sociale, le salaud de Sartre dans le fond, on serait réduit à ça, celui qui se croit ou celui qui est cru par les autres, je n'y ai jamais cru. Vous évoquiez tout à l'heure la philosophie. Il y a une formule qui, quand je regarde l'accueil depuis 10 jours, il y a une formule qui m'est revenue de Rousseau, que j'enseignais aux élèves. Rousseau disait « Je préfère être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés ». Alors j'en dis « C'est paradoxal ». Mais enfin, paradoxal de quoi? Pense-t-on que les hommes politiques ne lisent pas du tout, n'ont pas de... ou de gens d'autres métiers, d'ailleurs. Bon, donc... Et d'ailleurs, c'est pas venu après, contrairement à ce que pensent les gens. C'était là avant. Et il se peut que l'action politique se nourrisse aussi, je l'espère en tout cas pour la plupart de nos hommes politiques, à des sources qui peuvent être religieuses, philosophiques, littéraires, humaines. En tout cas, ce qui est intéressant pour moi... à ce moment de ma vie, c'est que malgré tout les activités qu'on peut faire, apprendre la philosophie, l'enseigner, faire de la politique pendant 20 ans, déterminent un peu votre rapport au monde dans le temps où vous le faites. Et ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans ce travail d'écriture, c'est pas seulement, on y viendra, la géopolitique, l'aspect invisible du monde. Finalement, séduction, c'est lucérer, ça veut dire se soustraire du visible. Et je suis toujours intéressé chez un être, dans un livre, ou à la partie qu'on ne voit pas, mais qui fait le mystère et qui fait le charme. Alors de ce point de vue-là, le policier, c'est important. Mais le capteur, c'est que... dans le fond, peut-être presque plus que l'intrigue dont on va parler, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre vie privée et action, vie publique, c'est-à-dire ce que ressentent les personnages, les émotions, la psychologie, et donc une attention à ce qu'il y a d'humain, y compris dans l'action, parce que finalement dans les policiers, qu'est-ce qu'on a dans les romans policiers? On a les grands thèmes de nos vies. L'échec, la solitude, la trahison, le mensonge, la culpabilité, l'innocence. Et on traite ces thèmes à travers une action, ce qui est aussi une forme de politesse à l'égard du lecteur. Mais c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Et bien entendu, les gens, il faut qu'il y ait une intrigue, il y a une intrigue. Mais c'est pas l'aspect politique de l'intrigue qui m'a le plus intéressé en écrivant. C'est mettre des hommes et des femmes avec leurs sentiments, leurs difficultés d'être, leur espérance dans ces situations.
Il y a de la psychologie, il y a un côté roman policier avec sa dimension politique malgré tout, comme tout bon roman policier, Vincent Peillon. Et il y a autre chose dans votre Aurora. Il y a aussi un côté espionnage, roman d'espionnage avec des agents secrets. Du coup, je me suis demandé comment vous aviez envisagé l'époque dans laquelle nous sommes pour écrire un roman d'espionnage, me rappelant ce qu'avait dit à ce même micro il y a quelques semaines à peine un écrivain du nom de Percy Kemp, qui a longtemps fait des romans d'espionnage et qui aujourd'hui dit « Mais le roman d'espionnage, on ne peut plus l'écrire de la même façon, surtout depuis la fin de la guerre froide. » J'aimerais vous faire écouter ce qu'il disait.
Ce qui est intéressant dans un roman policier ou d'espionnage, c'est l'univers particulier qu'il forme. Et il est vrai qu'aujourd'hui, vu la violence qui sévit dans le monde, qui fait que le renseignement n'est plus ce par quoi on peut éviter la violence, mais ce par quoi on peut faire une violence plus efficiente, la fin de la guerre froide aura finalement cassé le monde clos dans lequel les romanciers puisaient une inspiration et trouvaient un feeling et une atmosphère. Et de ce fait, soit les romanciers d'espionnage se tournent à nouveau vers la guerre froide pour raconter des histoires qui se passaient pendant la guerre froide, soit ils font de l'anticipation pour recréer des mondes clos, mais en tout cas pas le monde ultra-violent dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui est, à mon avis, rétif au roman. Nous ne vivons pas aujourd'hui dans un monde romanesque.
Vincent Peillon.
Non, je pense que c'est un petit peu comme ce qu'on vit en politique ou les citoyens, c'est-à-dire qu'il y avait deux camps. L'Est ou l'Ouest, le bien le mal quand même, hein, quand on regarde beaucoup du point de vue américain ou des alliés. Les choses sont plus complexes, et d'ailleurs c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, puisque on voit bien qu'il y a des alliances curieuses entre la Russie, certains Européens et certains faucons américains. Ils sont tous quand même anti-musulmans, on le sait. On découvre aujourd'hui avec stupéfaction, mais on le sait depuis des dizaines d'années, que la CIA a non seulement favorisé des gens comme Al-Qaïda, contre les Russes d'ailleurs à l'époque, mais qu'ils ont aussi protégé les dignitaires nazis, et que les armées secrètes de l'OTAN ont réemployé ces gens-là. Bon, alors, la donne internationale est sans doute un petit peu plus complexe. En tout cas, on ne peut pas nous vendre une salade où il y a les bons et les méchants, le bien, le mal, le jour et la nuit, ce qui était le cas lors de la guerre froide. Depuis que le mur est tombé, on se rend bien compte, et d'ailleurs l'Occident a une très grande interrogation sur lui-même, que les guerres sales, comme on dit, hein, parce que c'est une des questions du livre, malgré tout, c'est qu'on ne peut pas se passer de violence, mais la vraie question qui se pose, c'est quoi une violence légitime et c'est quoi une guerre juste? C'est la seule question qui compte en politique, et c'est la question qui anime ces gens-là. Penser que vis-à-vis du mal, il suffit de bêler de bons sentiments, c'est faux, et souvent on découvre des hypocrisies derrière. Mais la question se pose quand même quand on doit affronter la violence, le mal, les ennemis, ceux qui veulent vous détruire. À quelles conditions on peut le faire qui ne soient pas les mêmes conditions que nos ennemis? C'est-à-dire la furie, la haine de l'autre, la bestialité. Ça, c'est une question fondamentale. Je crois que les personnages du livre se posent en permanence cette question. C'est quoi une guerre juste? D'où ce thème, une guerre qui ne soit pas de vengeance, qui ne soit pas d'ethnique, de destruction de l'autre dans son identité, mais une guerre au service, question qui s'était posée d'ailleurs déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, au service d'un certain nombre de valeurs. Donc quand au nom des valeurs de liberté, de paix, de droits de l'homme, on mène quand même la guerre, quel type de guerre peut-on mener? Et quel droit a-t-on d'exercer la force?
Pourtant, vos personnages, ils n'ont... Enfin, ceux qui, disons, défendent des valeurs de justice dans le monde et veulent réparer le monde... n'ont pas froid aux yeux et sont prêts à utiliser les grands moyens, à dégommer les salauds et à être soulagés qu'il y ait une ordure de moins sur Terre. Quand j'ai dit dégommer, c'est vraiment dégommer, Vincent Peillon. Donc, il se demande, dites-vous, il se pose des questions sur les moyens à utiliser quand on mène une guerre qui est une guerre au nom de certaines valeurs, la guerre juste. Ils y répondent assez clairement. Bon, ils sont engagés pour cela, mais ils sont très volontaires dans cette opération commando qui fait beaucoup de morts.
Ils sont engagés pour être sacrifiés, parce que justement les hypocrites mènent des guerres qu'ils prétendent justes, mais en réalité les drones tuent aussi des enfants, des femmes, des populations civiles. Carlo le dit à la fin, qui est dans le fond cet officier du Mossad, mais qui n'est plus du Mossad, il faut le comprendre, beaucoup de gens ont mal à le percevoir dans le texte, il dit « moi je n'ai jamais tué d'enfant ». Le seul droit qui se donne, c'est de tuer des gens qui précisément tuent les autres, y compris les populations civiles. Eux, ce sont des soldats qui pensent qu'ils n'ont qu'à tuer des soldats. La difficulté des guerres qu'on nous vend aujourd'hui, c'est que malheureusement, mais je vois beaucoup de mes compatriotes qui n'en sont pas gênés, elles tuent pas seulement des soldats, elles tuent beaucoup de populations civiles, et s'adressent évidemment les gens pour longtemps. Y compris contre nous. Donc cette question de la guerre juste me semble fondamentale, il faut la poser aujourd'hui. Je vois que d'ailleurs beaucoup d'auteurs de romans policiers, y compris français, la posent justement. Et il faut faire très attention à ce que nous faisons nous-mêmes, au nom parfois à l'Occident, de nos grandes valeurs, parce qu'elles sont mal comprises des autres quand ils voient la réalité de ce que l'on fait. Donc ce thème est effectivement central, et il est porté par ces gens qui peuvent apparaître comme violents. Et ils le sont d'ailleurs, ce sont des hommes d'action.
On dit des justiciers parfois.
Mais parce que la question qui se pose, elle n'est pas simple, hein, guerre juste, on voit bien qu'il y a le terme de justice dedans, et eux se posent la question de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de la vengeance et qu'est-ce qui est de l'ordre de la justice. On a l'impression aujourd'hui, ce que dit d'ailleurs, mais c'est pas bien noté, un Marocain au début du texte, que beaucoup des guerres sont des guerres de vengeance, de peuple contre peuple, de religion contre religion. Et eux se posent en permanence, c'est pour ça qu'ils sont d'une certaine façon d'aucun camp, parce que eux-mêmes ont renoncé à l'action à un certain moment, donc ont quitté le Mossad parce qu'ils désapprouvent l'évolution d'Israël, ils le disent à un moment donné, et y compris pour des raisons personnelles. Mais ils reviennent pour liquider un certain nombre de factieux néo-nazis ou faucons américains, mais ils savent très bien qu'on va les utiliser, qu'à un moment, comme cette histoire ne doit jamais être écrite, on va les faire disparaître. C'est-à-dire on va les chercher que parce qu'ils sont précisément des hommes inconnus, cachés et mis de côté. Mais comme ils connaissent bien l'action, à un moment, ils vont se rebeller et ils disent « c'est pas aussi simple que ça ». C'est ce qui donne un peu le côté mise en abîme du livre. Mais à travers ça, ils posent des questions qui sont pas justement par rapport à ce que disait le sujet que vous avez passé.
Merci Kemp, oui.
Oui, effectivement, c'est plus difficile aujourd'hui de penser qu'il y a d'un côté tout le bien, de l'autre côté tout le mal. Ça nous oblige à être un peu plus intelligents. Vous avez parlé d'étonnement tout à l'heure. Vous avez raison. Étonnons-nous. Platon nous le recommandait, c'est le début de la réflexion, de la philosophie. Étonnons-nous, il n'y a rien de pire que ceux qui vont d'évidence en évidence et toutes ces évidences prémâchées qu'on leur vend à longueur de journée. Donc si ça peut étonner un peu, tant mieux.
Tant mieux. Vincent Peillon, il y a un personnage quand même dans votre roman qui regorge, hein, qui est un roman truffé de personnages très différents. Il y a des malfaisants, il y a des vengeurs masqués, tout le monde, ou presque, joue double jeu. Il en est un qui est... plutôt du bon côté, on va dire, qui dit que aujourd'hui le monde est un grand foutoir. Le monde est devenu un grand foutoir et que ce monde multipolaire devient un capharnaüm. Alors d'un côté, vous nous dites oui, les biens, les gentils, les méchants, on peut pas nous le ressortir aujourd'hui. Le monde est devenu complexe. C'est vrai qu'on a depuis 20 ans entendu dire cela. Et en même temps, on pense que ce monde complexe est malgré tout, de fait, devenu un foutoir dans lequel il faudrait retrouver des lignes d'horizon assez claires, un peu comme le dit Chamblain dans votre roman. Quelle est votre position par rapport à ça ?
Bien. C'est ce qu'ils disent à un moment. Moi, j'ai connu ça en gros, après la chute du mur de Berlin, on commence à parler du nouvel ordre mondial, qui est en fait un nouveau désordre. Et on prend des airs très savants. Ils le disent, ça, c'est un truc qui plaît aux intellectuels, mais pas à eux, qui est en gros dire, ce mot, c'est multipolaire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centres, hein, l'Asie, les pays émergents, que les États-Unis sont plus en position dominante. Oui, Mais précisément, leur position, c'est que cette complexité du monde ne doit pas nous empêcher d'y tracer un chemin. Mais y tracer un chemin, c'est pas revenir, ce qui est la tentation naturelle des uns et des autres, à un bien très simple, à un mal très simple. Il y a certaines personnes aujourd'hui dans le débat
public...
C'est
pas un manichéisme, quoi.
Voilà, qui disent, bon, tout est, la faute entière est à l'Europe, la faute entière est à... Ça n'est pas comme ça aujourd'hui. Si vous prenez... Moi, j'ai été le rapporteur de tout ce qui concerne le Moyen et le Proche-Orient pour le Parlement européen dans les deux dernières années, en particulier les problèmes de stabilité. Si vous prenez, et donc Daesh, si vous prenez ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye, si on vous dit, et si vous allez même après au Maghreb, ou si on vous dit il faut qu'on ait une position, une et la seule, ça ne marche pas. On voit bien d'ailleurs, et tout le monde a été bousculé tout le temps, prenez juste l'affaire Bachar el-Assad, les mêmes qui il y a un an disaient on lui parlera jamais, disent mais on doit lui parler quand même, et puis etc. Donc on voit que tout le monde est un petit peu perdu. Ça ne doit pas empêcher de tracer un chemin, tout en sachant, évidemment, que ce chemin ne peut pas, mais est-ce que ça nous a fait du bien de penser que tout était bien ou mal, les bons, les mauvais, que c'était si simple, je ne le crois pas, mais ça ne doit pas nous empêcher de tracer un chemin. Et la force peut-être de ces gens-là, parce que c'est un livre qui, d'une certaine façon, et en ce sens, moi j'ai eu plaisir à l'écrire parce qu'il est lumineux de ce point de vue-là, eux, ils n'ont pas d'interrogation sur ce qu'ils doivent faire. Parce que le monde est complexe, c'est un capharnaüm, c'est vrai, mais le « tu dois », c'est-à-dire l'exigence intérieure, on peut quand même savoir ce qu'on a à faire dans ce monde.
Ils tracent un chemin, ces personnages, Roland Kuntz, Hermon, ils tracent un chemin, plus que cela même, Vincent Payon, parce qu'on suit l'enquête sur les disparitions d'un certain nombre de personnages de votre roman, premier d'entre eux, dès le début. Mais on suit cette enquête à travers les yeux assez innocents d'une jeune fille, qui est la fille de ce personnage qui, dès le début, disparaît. Et les héros, les deux héros principaux, ont un rapport très particulier à leurs enfants. Au début du livre, à la fin du livre, il est question d'un rapport de transmission, au fond. Comme si l'idée centrale de ces héros qui tracent leur chemin et qui savent où ils vont, c'était de quand même vouloir laisser un monde plus vivable. Le monde dans lequel les enfants en question, qui traversent le livre, la fille en particulier, ce monde doit être plus juste. Le monde des générations futures, celles qui sont déjà là d'ailleurs, doit être plus juste. Est-ce que c'était votre chemin à vous, à travers ce roman ?
C'est pas mon chemin à moi, c'est le chemin que je nous souhaiterais à tous. C'est-à-dire qu'en fait, la fin, où il peut revenir en Israël, dans son pays, où il peut revoir sa fille qu'il ne pouvait pas voir, c'est une fin qui est de l'ordre de la réparation, tel qu'on le dit, mais de la fin de l'exil. L'exil n'appartient pas qu'aux Juifs, c'est un peuple d'exil. Mais chaque homme, dans le fond, il porte une universalité, les Juifs, et chacun d'entre nous est séparé de lui-même, séparé de ceux qu'il aime, et le sent bien, c'est la condition humaine. Nous sommes pris dans cette difficulté d'être les uns et les autres. Et dans l'idée du tikkun, de la réparation, qui est en arrière-plan du livre, il y a une conception du judaïsme qui est que ce travail de réparation, on ne doit pas le faire pour son propre peuple, on doit le faire pour toute l'humanité. Ça fait écho au début, qui est la question que cet homme, qui a été un homme d'action, se pose. À quoi doit-on faire face? On nous dit toujours, et nos parents nous disent, il faut que tu fasses face, que tu sois à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi on doit être dans une vie d'homme? La question se pose à travers les religions, à travers les sagesses, à travers la politique, l'engagement citoyen. Et au début, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut faire finalement face à soi-même. C'est toutes les sagesses d'aujourd'hui où chacun se regarde son nombril et se dit je devrais être mieux avec moi-même. C'est avec moi-même que ça va pas, faut que je travaille sur moi-même. Est-ce que c'est avec les autres? C'est un peu lié. Est-ce que c'est faire face à Dieu? Ce qui est une question que pose la religion, être capable dans le fond d'affronter la grande altérité, hein, l'autre. Et je crois que ce que découvre Kuntz à travers, sans doute, des épreuves humaines, il a perdu sa femme, il a perdu un enfant qui devait naître, à travers son parcours d'homme engagé et sa solitude, c'est que dans le fond, le plus difficile, mais c'est une vieille leçon aussi qu'on a à travers les sagesses, c'est pas de faire face à l'autre, à soi-même, à Dieu, c'est de faire face et d'assumer ce qu'il y a d'amour dans une vie humaine. C'est finalement très complexe et on le fuit souvent plus que l'on croit. Et je crois que d'une certaine façon, quand il rencontre ce petit enfant et qu'il revient dans sa terre, donc cette réparation, c'est ça qui a bougé chez lui, c'est-à-dire d'être capable, dans le fond, d'assumer l'amour qu'il peut recevoir. Souvent, on a très peur de l'amour qu'on peut nous donner et l'amour que l'on peut donner.
Vincent Peillon, à vous écouter parler, et là on est moins surpris, on entend qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont le soubassement de ce livre, et pourtant c'est un roman d'action. Il s'y passe des scènes vraiment d'action. C'est une écriture qui est assez factuelle, très descriptive sur les personnages, et en même temps bourrée de personnages de lieux différents, du Groenland au Danemark, en passant par Paris et Israël. On se dit aussi que vous vous êtes beaucoup amusé à l'écrire, que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Mais on se demande comment vous avez travaillé ces scènes, en particulier ces scènes visuelles, ces scènes cinématographiques, d'où cet extrait « Ne touchez pas au Grisby » au début, des scènes d'action où les personnages vont littéralement dégommer plusieurs personnages à tuer, en gros. Comment les avez-vous travaillées, ces scènes ?
D'abord, la première chose, vous avez raison sur le plaisir, mais il est lié au plaisir qu'on donne aux autres. C'est-à-dire que ce que j'aime dans le roman policier, certains me tombent des mains d'ailleurs, hein, comme d'autres livres parfois, c'est quand ils ne nous emmènent pas. Parce qu'il y a une forme d'humilité, dans le fond, dans le travail de celui qui écrit un thriller. C'est que là, c'est un genre où on attend l'auteur vous prenne par la main et puis qu'on tourne les pages sans difficulté. Donc, il n'y a pas de pensum. Il faut qu'il y ait l'action, du plaisir pour le lecteur aussi. Ce souci permanent du lecteur avec les cadres, moi, m'a beaucoup intéressé et m'intéresse beaucoup dans ce travail. Quand on fait un séminaire de philosophie, un cours de philosophie, on a énormément de plaisir. Mais on a du plaisir à 15-20 personnes qui connaissent bien. Alors moi, mes marottes, Louis Blanc, Pierre Leroux, Merleau-Ponty, bon, très bien. Donc je fais ça. Là, c'est l'idée aussi de s'adresser à des gens qui ont des trajectoires totalement différentes. Et moi, je suis comme ça. Hein. Je suis toujours dans les gares, dans les trains, dans la gare du Nord, gare de l'Est, et je vais au relais acheter. Et puis, il faut qu'on m'emmène. Il faut qu'on me raconte une histoire. Et donc, ce plaisir-là, c'est le plaisir qu'on veut donner à l'autre. Et le travail dans ce roman, pour moi, ça a été de réécrire les scènes autant de fois que je le trouvais nécessaire pour avoir le sentiment que voilà, qu'elle pourrait passer alors, et intéresser, et en tout cas faire qu'à un moment on ne s'arrête pas. Donc c'est cette espèce d'humilité.
Travailler le rythme.
Oui, mais qui est aussi vraiment c'est un souci permanent, et moi j'aime beaucoup ça dans le roman policier, du lecteur. J'ai pas honte de dire, je suis pas là pour raconter mes états d'âme, mais pour raconter des choses qui emmènent le lecteur.
Au moment où je lisais ce livre, Vincent Peillon, la semaine dernière, paraissait dans le journal du Monde un papier qui était sur les Panama Papers, qui disait que le cabinet Mossack Fonseca, parfois sans le savoir, avait créé des dizaines de sociétés offshore pour des agents secrets. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, la réalité rejoint la fiction. Et on sait que vous avez été l'un des premiers, avec Arnaud Montebourg, à avoir pris à bras-le-corps cette question du blanchiment d'argent, de l'évasion fiscale, de la délinquance financière. Vous étiez dans la commission d'enquête parlementaire en 1999. Vous avez porté cette question de lutte contre l'évasion fiscale aux européennes de 2014. Est-ce que les Panama Papers vous ont appris quelque chose ? Est-ce que vous pensez que, alors que depuis 17 ans, on ne peut pas vraiment dire que les choses aient beaucoup changé, vous espérez que là, les choses vont bouger ?
Écoutez, après, il y a toujours, parce qu'on l'a vécu évidemment, c'était la mission parlementaire la plus longue de la Ve République. À l'époque, on a eu les ouvertures du 20h, les Paris Match, etc. Puis c'est tombé dans un formidable silence. Et on a l'impression qu'on redécouvre, ça dure une semaine, puis on passe à une autre actualité. Il y a eu des progrès quand même, et le travail fait par tous ces journalistes, enfin, vu de mon point de vue, qui est celui d'un militant contre les territoires non coopératifs, c'est un travail utile et efficace. Donc c'est assez rare que je dise des choses positives, y compris sur la presse, on me le reproche souvent. Ça, c'est vraiment un travail très positif. Donc, mais ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup de vos collègues m'ont d'ailleurs appelé. Parce que le danger du polar, c'est qu'on dit le type, il est en train de tomber dans la théorie du complot, c'est un dingue, il nous parle de néo-nazis, etc. C'est une facilité. Or, dans cette affaire, je ne sais pas si vous avez noté qu'un des deux avocats est le fils d'un dignitaire nazi qui s'est abrité là-bas. Je vais me permettre d'aller un peu plus loin, connaissant bien ce monde. On ne reste pas 30 ans, ou voire plus, au top, sans avoir des protections puissantes quand on est un grand cabinet comme ça, y compris évidemment de grands pays occidentaux, parce que si on avait voulu faire le ménage plus tôt, on aurait pu le faire. Donc, quelque part, parfois, la réalité dépasse la fiction, et des gens qui étaient prêts à dire « mais vous êtes un peu dingue, là, avec votre livre, de nous parler de tout ça », voyant les Panama Papers, se sont dit « mais non, peut-être qu'il y a quand même vraiment quelques sujets lourds ».
Vincent Peillon, dernière petite question avant de vous laisser partir. On reçoit Yanis Varoufakis dans le journal d'ailleurs et puis dans la dernière partie de La Grande Table. Est-ce que vous auriez une question pour lui ?
Non. Non, non, je lui souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup, Vincent Peillon, d'être venu au micro de La Grande Table.
De
je rappelle
invitation.
Ce titre, ce livre, Aurora, qui est apparu aux éditions Stock. C'est un vrai thriller. Merci d'être venu nous en
Merci
parler.
Merci beaucoup à vous,
Grande
c'était
Table.
Un plaisir.